Aujourd'hui, dimanche 10 mars, je vais bien. Enfin bien, je vais pas mal. En ce dimanche, je me sens d'humeur plutôt pieuse. Oui, mes amis, oui, mes frères, oui, mes sœurs, je suis totalement imprégné par l'esprit du carême en ce dimanche de jeûne. Alors, bien sûr, j'ai une vie plutôt saine. Pour moi, le jeûne, c'est quasiment mon quotidien. En même temps, mes émoluments de soldat du service public ne me permettent pas d'envisager la vie sous un jour dispendieux. De temps en temps, un peu de pain frais, quelques féculents, deux fois par semaine de la viande, et le samedi soir, je me laisse aller à consommer un petit dessert. Pour ce qui est des sorties, j'en ai pas vraiment les moyens, même pas de quoi m'offrir un chien. Du coup, mes balades le soir, c'est pour aller voir uriner les chiens des autres. Allez, assez de lamentation, pensons positif et réjouissons-nous. Oui, réjouissons-nous pour un homme hors du commun qui aujourd'hui fête son 79e anniversaire. Plus qu'un homme, serais-je tenté de dire, une inspiration, un guide de bonne conduite universelle. Bon anniversaire, Chuck Norris.
Vous les femmes.
Bonjour et bienvenue dans Vous les femmes, le rendez-vous des femmes exceptionnelles. Pour m'accompagner, exceptionnel, il l'est tout autant, l'homme qui a tous les talents. Albert Algout, comment allez-vous ?
Je vais bien, très très bien, d'abord parce que vous me complimentez. Ensuite, le printemps approche à grands pas.
Oui.
Les primes verts pointent leur nez.
Oui.
Les giboulées vont pas tarder à nous détremper ou nous tremper. J'ai des envies de plein air, mais je suis toujours très très content de venir dans ce studio. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous recevons deux invités exceptionnels dont je n'ai pas le droit de dire le nom.
Et le suspense va prendre fin dès maintenant, car nos invités en ce dimanche 10 mars sont...
France Inter, Vous les femmes, Daniel Morin.
Journaliste, réalisatrice, productrice, militante pour la sauvegarde de la mer et des océans, présidente de l'association Bloom, cofondatrice de Place Publique, le mouvement citoyen écologiste et solidaire, lauréate du prestigieux prix Goldman, le magazine Géo l'a surnommé l'ange gardien de la planète, rien que ça. Bonjour et bienvenue à vous, Claire Nouvian.
Bonjour.
Un calendrier, pas un calendrier, mais un agenda plutôt de multi-ministre, vous. C'est très gentil d'avoir trouvé le temps de venir nous voir.
Merci à vous de m'avoir invité.
Non, non, je vous en prie. L'enjeu est de taille, plusieurs enjeux, et on va reparler évidemment tout au long de cette émission. Face à vous, chère Claire, comédienne à un temps, elle fit les beaux jours de Sous le soleil, aujourd'hui elle compose. Elle est parolière de, entre autres, Calogero, Louane, Julien Clerc, Florent Pagny, ou encore...
Terre, ta douleur,
la mégastar Miss Vegas, Céline Dion. Elle est en pleine préparation de son premier album, on en parlera tout à l'heure. Bonjour et bienvenue Marie Bastide.
Bonjour et merci beaucoup de m'avoir invitée.
Comment allez-vous ?
Très bien.
Parolière, parolier, on sait que c'est un métier, on sait que ça existe, mais... On ne les a jamais au micro, et c'est bien dommage.
C'est vrai, on ne les voit pas, c'est un métier de l'ombre.
Ouais.
Et ils ne sont pas souvent invités, pas très souvent récompensés non plus. Par exemple, il n'y a pas de victoire de la musique pour les paroliers.
Leurs chansons sont récompensées.
Oui, mais...
Ça vous est arrivé ?
Oui, ça m'est arrivé,
oui.
C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est un métier qu'on connaît peu. Après, il y a des paroliers très connus qui ont travaillé pour des grands artistes, mais c'est plus des gens qui... d'avant. Aujourd'hui, de nos jours, on connaît moins les gens qui écrivent les chansons.
Oui, enfin, quand on demande parolier, on pense tout de suite à Didier Barbelivien.
Oui, Didier,
et voilà,
bien sûr.
Voilà, Didier Barbelivien.
Marguerite Monnot pour Edith Piaf, par
voilà,
exemple, qui était reconnue.
Ah, vous et votre jeunisme, vous allez finir par nous avoir, ça continue. On va en parler tout au long de l'émission de ce fabuleux métier. Voilà, la présentation que j'ai faite, oui, un petit peu sommaire. Alors, pour mieux vous connaître, je vais laisser la parole à mon ami, un ami qui est aussi cousin d'un ancien ministre de la Culture, Jean-Jacques Lang. C'est à vous, cher Gigi.
Hello, vous les femmes, salut les garçons et bonjour à tous les gens de tous les genres.
Vous avez l'air un peu fatigué.
Comment ça ?
Vous voulez pas profiter du dimanche pour vous reposer ?
Très cher Daniel Morin,
oui.
Je profite du dimanche en effet pour récupérer. Plus exactement, je suis en after.
En after de quoi, Jean-Jacques ?
Mais combien de fois, Danny Nouchet, faudra-t-il que je vous demande de m'appeler Gigi ?
Oui, en after de quoi, Gigi ?
Ah, de la soirée... Marinière et Poppers, que j'avais organisé au Banana Café.
Et quel rapport avec nos invités, s'il vous plaît, Gigi ?
Ah, Gigi, ça commence à venir. Oui, au début, Gigi. C'est difficile, hein, mais après, ça vient.
Et
alors,
ouais, bah...
le rapport avec nos invités, c'est que sur le dance floor du Banana, au son de « Sous mon arbre » de Julien Clerc, de « Vieillir avec toi », de « Après l'amour » de chanson de Florent Pagny, de « Un jour au mauvais endroit » de Calogero, au son de « Le miracle » de Céline Dion, des titres qui nous ramènent à l'une de nos invités, puisque toutes ces chansons ont été écrites par Marie Bastide. Au son de ces chansons, disais-je donc, se dandinait, se déhanchait, se contorsionnait, se trémoussait, tourbillonnait, swingait.
Allez-y, ne faites pas languir, continue Gigi.
Hip hopper, j'aime bien ce verbe.
Oui. Ben, continuez.
Oui, je vous fais languir, c'est le but, Danny Chéri. Donc je reprends. Sur le dance floor, au son des chansons de Marie Bastide, ondulaient chaloupettes, solides marins pêcheurs moustachus, et des poissonniers sentant bon le cabillaud, le mérou ou la raie, dont les marinières moulantes, dont le scintillement de la boule à facette du banana semblait étinceler de mille écailles aux reflets argentés. J'ai mal à le dire. Des reflets aussi argentés que ceux de ma nouvelle coiffure, vous l'avez remarqué, une coupe dégradée, rajeunissante, avec balayage et pigmentation poivre et sel, des mèches et des racines, au typex et charbon de bois. Signé Jean Patou, mon fidèle capilliculteur paysagiste de chez Zouzou Coiffure.
Bon, revenons à cette soirée, Gigi, s'il vous plaît.
Eh bien, cette soirée était organisée pour ouvrir les yeux de ces travailleurs de la mer dans les océans où poursuit la pêche profonde qui ravage les fonds marins, qui détruit toute vie sous-marine. Et si les quotas de pêche ne sont pas appliqués, si les labels trompeurs genre pêche responsable, pêche durable ne sont pas vérifiés, comme le préconise l'association Bloom, et paf, encore un lien avec notre autre invité, Claire Nouvian, eh bien, si ce saccage se poursuit, c'est le métier de ces hommes et de ces femmes qui disparaîtra à jamais. Fini les vigoureux marins-pêcheurs moulés dans leur marinière. Voilà, bon dimanche à toutes et à tous, et bonne émission.
Oh ben merci Gigi, j'ai l'impression qu'on connaît vraiment mieux nos deux invités maintenant, grâce à vous.
Le dossier est réglé.
Now that you're gone, now that you're gone, de Raconteurs sur France Inter. Nous sommes avec nos deux invités exceptionnels, nous allons apprendre à mieux les connaître. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h. L'émission, je vous le rappelle, est podcastable, bien évidemment. Excellent dimanche à tous.
That you're gone. Under somebody new, well, that didn't take long. And where you gonna go? Not that I care. And who can you trust now that I'm not there? Never known such unhappiness. Now that you're gone. Now that you're gone.
The Raconteurs, Now That You're Gone sur France Inter.
Vous les femmes?
Et uniquement les femmes.
Daniel Morin.
Ah oui, les femmes vont apprécier.
Sur France Inter.
En compagnie de Claire Nouvian, journaliste militante pour la sauvegarde de la mer et des océans, présidente de l'association Bloom, cofondatrice de Place Publique, et Marie Bastide, parolière de, entre autres, Calogero, Julien Clerc, encore Céline Dion, en préparation de son premier album. Mesdames, on va revenir sur quelques-unes des dates qui ont été déterminantes dans votre parcours. On commence par vous, Claire Nouvian. On commence en 1996, découverte de l'Argentine. Et il paraît que c'est une révélation.
Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'aller en Argentine.
J'ai eu la chance d'aller là-bas.
Ouais, c'est un des plus beaux pays du monde pour moi. Et j'y suis allée, j'avais épousé un garçon charmant et on est partis. Et j'ai découvert en fait la mégafaune. C'est-à-dire que des condors, des baleines... des toucans, etc. Et c'est vrai que...
Un choc.
Bah oui, parce qu'on est habitué à... Enfin, c'est déjà une émotion forte. Hein. Moi, je trouve quand on croise un hérisson, quand on voit des biches, etc. Mais là, quand même, cette masse, ces énormes animaux partout, cette immense nature sauvage, sublime, ouais, ça a été un choc.
Et là, vous vous dites, je veux faire des docs nature.
Oui, je me suis dit, en fait, je voulais vraiment passer tout mon temps dans la nature, à essayer de la comprendre, de mieux la connaître et au contact des animaux. Ouais, c'était très net, c'est devenu très net. En
ce jour-là, c'était prévu. C'était en 1996. En 2000, malheureusement, léger frein sont les maladies tropicales.
Ben, du coup, j'ai fait ce que je voulais faire, c'est-à-dire j'ai travaillé dans la production audiovisuelle, j'ai fait des documentaires animaliers, scientifiques, un peu partout dans le monde, mais du coup, j'ai passé beaucoup de temps en forêt tropicale. Et forcément, j'ai attrapé des maladies tropicales. En fait, j'ai attrapé la fièvre du Nil et la dengue. Et coup sur coup, ça faisait un petit peu trop pour le système. Donc, j'ai été obligée d'arrêter tout, en fait.
On n'a pas peur, on se dit pas, ah, là, c'est terminé, je ne vais plus pouvoir y retourner.
En fait, on se dit, enfin, déjà, j'étais dans une espèce de coma fiévreux, donc...
On se dit pas grand-chose.
Ben, on se dit pas grand-chose, à 42 de fièvre, on se dit plus grand-chose. Et ensuite, quand on revient à la vie, en fait, c'est une espèce de fatigue telle que c'est comme si on était dans une espèce d'énorme dépression épaisse. Et on n'arrive pas à, enfin, lever la main pour attraper un verre d'eau. C'est un effort gigantesque, en fait, donc... Donc voilà, toutes les perspectives sont complètement changées en fait quand on est malade, vous savez. Mm-hmm. Donc voilà, je suis restée dans mon trou à dormir. Et je dormis pendant des mois. Et pendant ce temps-là, j'avais cette idée qui me trottait dans la tête que j'avais découvert les océans profonds avant de tomber en fait malade. Et j'avais ça en tête dans mes rares heures éveillées. Je les ai passées à essayer
rares
de...
heures de lucidité. De
vous dire. Ouais, c'est ça. Quand je sortais vraiment du coltard.
Il y a une autre révélation, c'est vous visitez un aquarium, c'est en 2001.
C'est en 2000, bah c'est au moment où justement j'étais juste avant de tomber malade en fait.
C'est, ok, c'est juste avant.
Ouais, et c'est en découvrant en fait les océans profonds que j'étais un petit peu obsédée par cette vision de me dire mais c'est fou, il y a toute cette immense masse inconnue sur
totalement
la planète.
Totalement inconnue, ouais, ouais.
Inconnue, alors que c'est 98% de l'habitat disponible sur Terre pour les animaux vivants. Et du coup, j'ai pensé qu'à ça. Je suis un peu monomaniaque.
Donc c'est là que les grands fonds commencent à vous obséder. Vous découvrez en 2013 certaines hostilités, celles du Parlement européen.
Ben, en fait, en préparant mon livre, ensuite l'exposition que j'avais faite au Muséum d'Histoire Naturelle sur les abysses, j'ai travaillé en effet avec tous les chercheurs qui travaillaient sur ce sujet à peu près dans le monde. C'est une communauté de 300 à 400 personnes. Et ils m'ont alerté sur la destruction de cet océan profond qui se déroulait tous les jours, mais sans qu'on le sache. Sans qu'on en parle à la radio, sans qu'on en parle à la télé. Et ça a été un choc qui m'a évidemment mise en mouvement, parce que je me suis dit c'était impossible de laisser faire. Surtout quand on sait que personne n'est mobilisé pour défendre cet immense milieu magnifique, mais extrêmement fragile, et que quelques centaines de bateaux industriels dans le monde peuvent œuvrer à la destruction massive et ultra rapide d'écosystèmes les plus vulnérables.
Et quand vous dites massive, ça veut dire que le fond est complètement raclé.
Ah oui, ce sont des énormes machines industrielles qui raclent vraiment des filets qui plongent à l'époque quand même jusqu'à 2000 mètres de profondeur. Et c'est encore le cas hein, dans les eaux internationales qui ne sont pas protégées. Et ces filets raclent jusqu'à 2000 mètres de profondeur avec des énormes...
Et ils arrachent tout sur leur passage.
Tout. Et des chercheurs, il y a un chercheur américain qui m'a montré... une vidéo qu'il avait faite, justement, ils étaient en train d'explorer un mont sous-marin à 2000 mètres de profondeur à l'est de New York. Et ils avaient un mont sous-marin avec des coraux magnifiques, etc. Et ils vont, avec le sous-marin, ils vont sur l'autre mont à côté. Et là, rien. Il restait plus rien. Et en faisant des recherches, ils se sont rendus compte que c'était des bateaux soviétiques qui étaient passés par là, mais des années avant. Et rien n'avait repoussé.
Et rien n'avait repris.
Et ça, en effet, il m'a montré ça pendant que je préparais mon livre. Et ça a été un choc, en fait. Je me suis dit, mais qui fait ça? Mais enfin, il faut que ça s'arrête tout de suite.
Qu'est-ce qui se passe? Qui ose?
Et voilà. Et donc, je suis partie dans cette quête en me disant, parce qu'on se lance dans ce genre de choses quand on est naïf et ignorant de ce qui nous attend. Vous voyez, si on m'avait déroulé le film. Donc, je me suis dit, ça y est, c'est bon. Ma mission dans la vie, c'est d'arrêter ces énormes chalutiers industriels.
Parce qu'il faut dire qu'ils ramassent tout sur leur passage et ne sont à la recherche que de quelques poissons.
Oui,
le reste est rebalancé à la mer, mort.
Ouais, c'est ça. Ils valorisent 2 ou 3 ou 4 ou maximum 5 espèces sur une centaine ou plus qui sont rejetées mortes. Et donc, je me suis mis en tête d'arrêter ça, d'interdire le chalutage profond Et j'ai commencé en Europe, évidemment. Puis la France étant une des plus grandes nations de pêche profonde à l'époque, j'ai commencé en France. Et à l'époque, Jean-Louis Borloo était tout à fait ouvert d'esprit à cette idée. Et donc, pendant le Grenelle de la mer, on a commencé. Et ça a été le début d'un combat qui a duré pendant 8 ans et qui est passé par cette phase horrible du Parlement européen le 10 décembre 2013. Il y a peu de dates que je connais par cœur, mais celle-là, je la connais, je m'en souviendrai toute ma vie. Puisqu'on avait montré que c'était une destruction irréversible d'un environnement ultra fragile. Tous les députés étaient au courant, on avait fait une campagne sans faute. Tous les chercheurs étaient avec nous. Il y avait plus de 300 chercheurs qui avaient demandé l'interdiction du chalutage profond. La masse de données scientifiques, même les données économiques, parce que cette méthode de pêche industrielle est quand même financée par nos impôts. Donc on a montré que ça nous coûtait.
Pourquoi c'est financé par nos impôts?
Parce que, en fait, par le biais de subventions publiques. Hein. Les subventions sont distribuées par les gouvernements, et notamment le gouvernement français, l'Union européenne, à ces énormes flottes industrielles. Et donc, on a montré que c'était pas juste une destruction gratuite. C'est une destruction qui nous coûte.
En plus.
Et donc, on avait tout avec nous. Tout. Et malgré ça, le 10 décembre 2013, le Parlement européen, à quelques voix, 9 voix près, les voix de la délégation socialiste, à l'époque française, ont voté contre l'interdiction du chalutage profond. Et là, ouais, j'ai un peu plongé en enfer, en fait. Je vous avoue que je me suis dit, mais on perd contre le mal, contre le mensonge, contre le cynisme, contre le lobbying horrible. Si c'est ça la décision publique, si c'est ça l'Europe, si c'est ça la France, si c'est ça l'humanité, mais à quoi bon, en fait?
On est tenté de lâcher l'affaire, ou on se dit, ah, c'est comme ça, ok, j'ai compris quelle règle vous jouez.
Ben, en fait, pendant un temps, c'était pas terrible au niveau du moral.
Ben oui.
Et un peu comme voilà, un peu comme si j'avais rattrapé mes maladies tropicales. J'étais abattue en fait pendant un temps. Et en fait, j'ai fait un truc magique. J'ai arrêté de travailler pendant une semaine, ce que je n'avais pas fait depuis des années. Et j'ai dormi. Et j'ai pas travaillé 2 week-ends d'affilée. La semaine au milieu, j'ai dormi et ça m'a redonné l'envie de me battre. Et en me disant, la politique c'est bizarre, mais c'est jamais terminé jusqu'au bout. Donc on va pas les laisser gagner, c'est pas possible. Et donc tous mes collègues européens m'ont dit, mais laisse tomber Claire, là c'est mort, on va jamais gagner l'interdiction, il faut revenir à des objectifs qui sont un petit peu plus raisonnables, un petit peu plus atteignables. Et je leur ai dit, laissez-moi essayer.
Mais c'est terrible ça, parce que même quand l'entourage proche arrive comme une troisième lame en vous disant, non, on va arrêter, on va pas y arriver, ça doit être épuisant moralement.
Ouais, c'était... Non, mais de toute façon, ça a été dingue. Après, on était... Moi, j'ai vraiment une collègue qui est encore avec moi, qui s'appelle Sabine Rosset, qui est une battante, quoi, qui est une guerrière comme moi. Et on s'est dit, on va pas les laisser gagner, en fait. C'est pas possible. C'est tant pis si on crève, mais on va se battre jusqu'au bout. Et ça a pris encore 3 ans de bataille. Et finalement, on a gagné l'interdiction du chalutage profond en 2016. Dans toute l'Europe, donc ça valait le coup de pas totalement désespérer.
Et là, on se sent comment quand la décision est prise? C'est une explosion de joie où on dort pendant 6 mois.
En fait,
épuisé. Mais joyeuse.
Ce qui était joyeux, c'est le soutien des citoyens. En fait, tout ça, on le gagne vraiment parce que évidemment, on a une méthode. Quand les citoyens nous ont écrit en fait à la victoire, on a toute l'admiration qu'ils avaient pour nous et la fierté qu'ils avaient parce qu'ils avaient contribué à ce succès. Ça a été vraiment un grand moment d'émotion. Et je les remercie, en fait, tous ces Français, toutes ces Françaises qui prennent la petite seconde, les 3 petites secondes pour envoyer un tweet, pour envoyer un mail. Ça fait une énorme différence. Après, nous, on était un peu désespérés de se dire, on a passé 8 ans de notre vie. On est ultra fatigués. On a eu des gros problèmes de santé. On a plusieurs fois fini à l'hôpital au milieu de tout ça. On est ruinés. On n'a pas les moyens de faire tout ça et pourtant on le fait. Ce combat est totalement surdimensionné par rapport à ce qu'on est comme équipe. On n'a pas les moyens et pourtant on gagne. Mais 8 ans pour gagner une évidence. Pour gagner quoi? L'interdiction d'une méthode de pêche ultra destructrice qui rapporte en fait un tout petit peu d'argent à quelques petites flottes. Mais par rapport à quoi? Aux citoyens, à nos impôts. C'est ça la conduite du monde. Et je me suis dit, mais si! Il faut dépenser autant d'énergie, autant de temps pour obtenir un truc aussi facile, en fait, qui était tellement évident. La science est d'accord, tout était clair et net. Waouh!
Qu'est-ce qui vous pose? Vous laissez votre santé? Vous laissez votre argent?
Quand on est dans l'action, on ne se pose pas la question du désespoir. Donc, c'est quand même radical. Et ça marche. Enfin, ça donne du sens. Ouais.
Donc vous qui nous écoutez, si vous voulez remonter le moral de ceux qui travaillent vraiment comme des chiens de jour, comme de nuit, qui n'ont pas le week-end, qui laissent leur pognon et qui laissent leur santé, envoyez des messages, c'est très important pour le moral. Mais par exemple, là, le chalutage profond, vous en aviez entendu parler, Marie-Bastide?
J'en avais entendu parler, oui. C'est drôle parce que quelqu'un m'en a parlé il n'y a pas très longtemps. M'avait expliqué cette histoire de pêche, de relâcher des poissons morts, des pieuvres, des en grande quantité. Donc, en gros, de détruire toute la faune marine sous prétexte de pêcher un ou deux poissons. Ça m'avait vraiment interpellée. Et je trouve que les gens ne savent pas, en fait.
Ouais, surtout qu'il y a des techniques de pêche qui sont propres, quoi, et qu'il y a des savoir-faire artisans qui sont formidables et qu'on a
broyé. Loin de là l'idée de dire aux gens arrêtez de manger du poisson.
Ah bah non, mais quand on va au supermarché acheter un poisson, on imagine le pêcheur avec sa canne à pêche, quoi. C'est ça, en fait, le mensonge. C'est qu'en fait, derrière le joli poisson qui est dans la barquette ou même sur l'étal d'un truc frais dans un supermarché, en fait, ça vient d'un truc atroce.
Votre combat, votre abnégation et vos sacrifices vous rapportent le prix Goldman. Qu'est-ce que c'est le prix Goldman en deux mots ?
C'est un prix très bien doté.
Et qui vous aide, ce qui vous donne un sacré coup de main. C'est 200 000 euros
qui débarquent. 200 000 $.
Dollars,
donc un peu moins en euros. Mais qui permettent quand même de tenir un sacré paquet d'années, quoi, en étant bénévole pour l'association. Et c'est, oui, comme il est très bien doté, ce prix, évidemment.
Parce que très prestigieux.
Très prestigieux, parce que très bien doté aussi. Et comme il est très bien doté, évidemment, ils font un travail très, très sérieux pour savoir à qui ils donnent tout cet argent.
Et qu'ils ont
à faire, donc, ils passent une année à sélectionner leurs dossiers et à faire des enquêtes sur vous et tout. Et vous découvrez que tout le monde a été approché. Et ils le donnent à titre personnel, mais en réalité, c'est une équipe qui est récompensée. Donc, on y est allé en équipe à San Francisco et on était fiers. C'est une histoire d'une petite équipe qui est vraiment uni sur une mission.
C'est Bloom, c'est votre association.
Ouais, Bloom, quand on voit ce que donne une petite équipe qui regarde vraiment dans la même direction, ça fait des miracles. Et l'autre aventure collective, c'est celle avec les citoyens. Et du coup, c'est vraiment, on était fiers, mais vraiment au titre de regarder ce qu'on a réussi à tous faire ensemble, vous voyez.
Et en 2019, c'est quoi la suite du combat?
On se rend bien compte que les meilleures pratiques de pêche sont en train de disparaître. Et ce rouleau compresseur des industriels de la pêche, il n'a pas fait que des victimes environnementales, le milieu marin ou les poissons, il a vraiment fait des victimes humaines. On a choisi en fait de subventionner, on continue de subventionner les pires méthodes de pêche, celles qui détruisent l'océan, les poissons et les pêcheurs.
Comment est-ce que ça déséquilibre l'équilibre justement social ?
On estime, par exemple, que au niveau mondial, que plus de 60% des subventions publiques qui sont données au secteur de la pêche sont des subventions qui encouragent la destruction des poissons et de l'environnement marin et des emplois. Et évidemment, quand on voit au niveau français, nous, ça fait 4 ans qu'on demande à l'État les données de subventions. On veut savoir combien d'argent, de l'argent public, est donné au secteur de la pêche pour faire quoi ? Ça paraît assez légitime, hein, c'est quand même de l'argent public, donc...
Oui.
Eh bien, 4 ans qu'on obtient des données totalement parcellaires, incomplètes, chaotiques, qui nous permettent justement pas de poser un regard propre, net et clair pour dire voilà combien d'argent public est utilisé pour encourager de la bonne petite pêche ou alors de la méchante grande pêche industrielle qui détruit tout. On ne peut pas poser ce regard-là. Donc, on a attaqué l'État pour excès de pouvoir, puisqu'ils ne veulent pas lâcher. Et notre combat, ça va être les subventions. C'est le nerf de la guerre, en fait. C'est de changer le modèle économique de la pêche. Quand on retire les subventions publiques, donc l'argent public qui est donné au secteur de la pêche, les méthodes de pêche les plus destructrices ne peuvent même pas opérer. C'est-à-dire que les bateaux ne peuvent, en général, même pas quitter le port. Vous voyez ? Vous vous rendez compte à quel point ça marche sur la tête ? C'est-à-dire que les subventions encouragent la destruction de l'océan et la destruction de nos petits métiers, de tous les petits métiers qui sont le long du littoral. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y ait plus un bateau de pêche quasiment dans les ports de pêche en France. Hein. C'est devenu, il n'y a que de la plaisance. Quelques petits bateaux de pêche qui se courent après et quelques grandes unités industrielles. Est-ce que c'est ça la pêche qu'on veut ? Est-ce que c'est ça le maillage de notre littoral ? Est-ce que c'est l'économie qu'on a envie d'avoir en France ou en Europe ? Non.
Mais s'il y a des solutions, parce qu'apparemment il y en a, pourquoi est-ce que les politiques ne les prennent pas les décisions ?
Parce que vous avez vu qu'il y avait un petit sujet aujourd'hui d'indépendance de la décision publique au sens large par rapport aux intérêts privés. Le niveau de collusion maintenant entre les acteurs économiques et les acteurs publics, les acteurs politiques, est devenu un maillage fin, enfin c'est devenu une membrane. On n'arrive plus à dissocier les uns des autres. Et pour moi, le summum est arrivé avec la Macronie quand même. Et c'est pour ça qu'il est temps de couper cette membrane, en fait, au sabre. Enfin, maintenant, on arrête. Et donc, il faut arriver dans un niveau beaucoup plus clair et net de l'intérêt général. C'est le mandat, normalement, des décideurs publics. Ouais. Mais ils sont en trahison perpétuelle de leur mandat. Donc, on ne doit plus tolérer ça. Mais ça, on le fera comment? En allant voter, hein, il n'y a pas de miracle. Voter pour la représentation de l'intérêt général avec aussi des gens qui disent « je m'engage, je m'engage ». À une espèce de mandat impératif, c'est-à-dire à faire exactement ce que j'ai dit. Parce que les beaux discours, tout le monde sait en produire.
Mais comment on peut les obliger? Parce que si vous dites que Macron continue de mentir, il avait promis des choses. Si vous dites qu'il mente parce qu'il ne les applique pas, là, ça peut être la même chose. On peut élire quelqu'un qui va s'engager aussi sur autre chose et qui ne va pas tenir parole.
Et exactement, mais c'est pour ça qu'il faut regarder les individus qui ont tenu parole déjà, regarder les actes passés. Parce que là, vous me dites ce que vous avez voté, moi je vous dis qui vous êtes. Hein. Mmh. Mais ce n'est pas les discours qui vous déterminent en tant que personnage public, hein. C'est vos actes. Donc il faut regarder les actes, on sait qui est fiable et qui n'est pas fiable, hein. C'est assez clair sur les votes des députés par exemple, c'est assez net. Et puis les actes passés évidemment des gouvernements. Et puis bah, renouveler, moi je crois qu'on est arrivé à un moment critique où on voit bien que les intentions de vote, en gros, c'est à peu près équivalent du côté de Le Pen et de Macron, s'il y avait une présidentielle aujourd'hui. Si on laisse faire ça, on se retrouve dans un face-à-face mortifère et on perd ce qu'on a de plus précieux. C'est d'un côté la préservation de nos équilibres sociaux et de l'humain et de la planète, et de l'autre côté même de la liberté et de la démocratie. Alors ouais, faut se mettre, faut sortir
pourquoi,
de sa zone.
Si vous êtes, si vous êtes au courant de tous ces enjeux, pourquoi vous prenez pas les choses en main? Pourquoi vous
Ben, j'ai cofondé Place Publique,
ouais, Place Publique
avec Raphaël Glucksmann, et bien sûr qu'on prend les choses, on essaye de prendre les choses en main. Enfin, après, on le dit, hein, nous, on va sauver personne. Hein. Il faut simplement que les Françaises et les Français viennent avec nous et qu'ils soient d'accord pour sortir aussi de leur zone de confort. Et on n'arrivera pas à réinventer la politique tout seul. Puis on est qui pour réinventer la politique? On l'invente ensemble. Alors si on veut avoir un mouvement qui soit démocratique, c'est ça le problème, c'est que ça n'a jamais été fait en réalité. Donc on a des règles du jeu à inventer, ça va prendre un peu de temps, on va tâtonner. Mais on voit bien qu'il y a une aspiration très forte des Français à dire « mais on ne veut plus de cette façon complètement autoritaire de faire de la politique ». Puis la Ve République a été poussée à son paroxysme napoléonien. Là, on ne peut plus, en fait, cette concentration des pouvoirs dans les mains d'un seul homme. C'est devenu délirant, mais au sens propre. Donc, il faut changer tout ça. Il faut aller vers plus de démocratie, sinon on voit bien que la dérive autoritaire, elle est là, elle nous pend au nez.
Personne n'a essayé de vous récupérer?
Ah, si. Ça fait des années que tout le monde me propose d'être sur des listes, etc.
Ouais, ouais.
Après, vous voyez, le problème de la politique, je pense, c'est profond, hein. Mais le problème de la politique, c'est que comme c'est un sacerdoce, ceux qui sont prêts à y passer toute leur soirée, leur week-end, en permanence en meeting, en permanence en campagne, en permanence à ne plus appartenir, on perd complètement ce qu'on est, en fait. On finit par être déconnecté du réel. On perd sa famille, on perd ses amis, on les voit plus.
Vous savez de quoi vous parlez.
Ouais, je sais, j'ai bien vu le sacerdoce. Et encore, je pouvais décider de l'endroit où je passais mes soirées. Je n'étais pas tout le temps en meeting public. Eh bien, cette configuration même de la politique et de ce que ça implique comme sacrifice, ça ne peut qu'attirer des gens qui ont une faille émotionnelle profonde. Et donc, des animaux un peu bizarres. Donc, je pense que les règles de la politique, il faut qu'on les réinvente vraiment tous ensemble. Mais c'est personne ne l'a jamais fait. Et je pense que soit on arrive à faire ça, et on prend le temps, hein. Tant pis si ça prend un an ou deux ans, hein. Mais, et donc on permet l'accès à la vie publique, à des tas de gens qui veulent aussi voir leurs enfants, qui veulent aussi voir leurs conjoints, et de temps en temps, peut-être pas très souvent, mais de temps en temps leurs amis quand même, si ça pouvait être possible.
Les dates de Marie Bastide. Attention Marie, ça commence le 12 novembre 2009 avec signature du premier contrat d'auteur parolière. Ah, c'est une date marquante quand on veut faire ce métier.
Ouais, c'est vrai. Et bon, excusez-moi, je suis un peu sonnée parce que je trouve toute cette conversation tellement foudroyante.
Oui, c'est ça.
Mais
c'est
ça fait partie de mon travail d'auteur aussi, d'être foudroyée par des choses et de les mettre après en forme pour dire des choses dans des chansons. Ça paraît totalement dérisoire, mais.
Ah, elle va nous faire une chanson.
Mais je pense que. Enfin, moi, c'est pour ça que je fais ce métier. C'est pour essayer de bouger un petit peu les consciences. Parfois, c'est des toutes petites choses. Et puis, pour accompagner les gens dans leur vie. Voilà, moi, je veux dire merci parce que c'est hyper inspirant. Et donc, pour revenir à la première fois que j'ai signé un contrat.
Premier contrat d'auteur.
D'auteur, Ouais, ça a été très important dans ma vie parce que c'est arrivé tard. J'avais fait beaucoup de choses avant dans mon parcours. Donc vous l'avez dit en rigolant, j'ai été comédienne, j'ai aussi été institutrice, j'ai fait une école de commerce, j'ai cherché du sens beaucoup et je le trouvais pas ou je le trouvais pas longtemps quoi. Et bizarrement, le sens est venu d'un endroit totalement dérisoire, totalement pas important, qui peut être une chanson. Et j'ai commencé à écrire des textes et très vite j'ai signé un contrat. Donc là c'était devenu sérieux quoi. J'avais un métier et je savais
et la reconnaissance.
La reconnaissance et puis l'engagement qu'on voulait que je le fasse quoi. Et puis moi j'avais envie de le faire et je sentis que j'avais trouvé ma voie quoi. Donc j'avais 30 ans.
C'était déjà une bonne nouvelle. Je sais que j'ai trouvé ma
mieux
voie.
Mieux vaut tard que jamais
mais
voilà, ça a été très important pour moi.
Ouais. Et en 2015, victoire justement de la musique, chanson originale de l'été, Un jour au mauvais endroit.
Alors,
qui est chantée
pas
par
pas de l'été Calvéron. Mais de l'année.
J'ai dit de l'été, pardon, de l'année évidemment.
Ah, oui, déjà en 2015.
Ouais, mais non, c'était une chanson qui parlait d'un fait divers atroce, mais donc voilà, c'est pareil, c'était quelque chose qui m'avait touchée et surtout quand on est parolier, on écrit pour les autres, on se fait la voix de, enfin les mots de gens, souvent des compositeurs, donc là en l'occurrence Calogero, qui lui, son langage c'est la musique. Et il a pas les mots en fait, donc il peut avoir une envie d'artiste, de choses à dire, donc il le dit beaucoup dans ce qu'il compose. Il s'était passé ce drame dans sa ville natale, Déchirolles à Grenoble, où deux gamins avaient été poignardés par un groupe d'autres enfants, enfin des ados quoi, un truc complètement surréaliste. C'était même pas un truc de gang ou quoi, c'était vraiment un truc de le frère avait mal regardé le grand frère, le petit frère, le machin. Et donc il était vraiment touché par ça.
Il a été touché par ce fait
divers.
Voilà,
il m'avait transmis cette blessure qu'il avait en lui, cette et du coup on a fait cette chanson. Et c'est vrai que bon, je parle de la victoire. Effectivement, quand on a reçu la victoire, c'était extraordinaire parce que quand la chanson vous dépasse et que elle résonne tellement fort pour tout un pays que du coup elle arrive à ce niveau de reconnaissance et de les gens nous disaient pas bravo, les gens nous disaient merci. Et moi, c'est vraiment pour ça que je fais ce métier. C'est qu'à un moment, les gens, ils me disent pas bravo, ils me disent merci pour ce que t'as écrit, etc. Et le truc, le moment le plus dingue dans cette histoire, dans la chanson, c'est bon, la victoire, c'était la récompense, mais ça a été vraiment le moment où on a été faire écouter la chanson avant même qu'elle sorte, avant même que l'album existe, aux familles des deux enfants qui ont été tués, de Kevin et Sofiane. Je me souviens, moi, je venais d'accoucher, il n'y a pas longtemps, j'étais fatiguée. On est allé dans la banlieue de Grenoble, à Échirolles, en plein milieu de la cité. On était reçus par les parents. On avait fait cette chanson, vraiment, nous, de chez nous, avec notre émotion, en se disant, voilà, ça va être bien, parce que il faut dénoncer ça. Et puis les gens, ils ont besoin de... Moi, je sentais qu'il y avait une émotion que tout le monde avait en lui et qu'il avait besoin de sortir, quoi. Mais là, on arrivait chez les gens, on arrivait dans des familles endeuillées, ça faisait plus d'un an déjà que ça avait eu lieu, mais et là je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Mais c'était le pire moment de ma vie.
Ah oui, à ce moment-là?
Bah, en fait, je suis arrivée dans un salon où il y avait la mère de Kevin, le papa de Sofiane, il y avait leur famille, il y avait les frères et sœurs, il y avait des... Ils étaient tous, il y avait les photos de Kevin au mur, on est arrivé dans un salon et voilà, on allait faire écouter une chanson qui est quand même assez punchy. Où on raconte tout ça et on s'est dit, mais est-ce que c'est pas indécent ce qu'on est en train de faire?
Et c'était quoi la réaction de la famille?
Et la réaction de la famille, ça a été tout de suite une adhésion très forte. Comme si, voilà, même s'ils étaient encore en deuil, ils ont vu que cette chanson, elle allait porter un message. Et puis surtout, on était face à des gens extraordinaires. La maman de Kevin, c'est une sainte, quoi. C'est une femme qui a dépassé sa souffrance, qui a limite pardonné aux agresseurs de son fils, qui milite pour la paix chez les jeunes, l'anti-violence, qui s'est engagée. Et donc, a compris que cette chanson, elle allait pouvoir avoir un impact fort, quoi, auprès de la jeunesse, auprès de tout le monde. Et surtout, qu'elle allait permettre aux gens de se dire... les gens disent, c'est exactement ce que je ressens, quoi. C'est exactement les questions que j'ai en moi, la colère. À un moment, elle trouve un moyen d'expression. Même si c'est juste chantonner une chanson dans sa bagnole, bah, ça permet de...
Oui, ça aide, ça permet de détruire.
Voilà, d'avoir un miroir. En fait, nous, on met juste les mots pour les gens, parce qu'ils ont déjà cette chose en eux. On leur met les mots, quoi. Moi, c'est ça, mon métier.
Et mettre les mots, c'est aussi une autre chanson qui s'appelle « J'ai le droit, j'ai le droit aussi ». Là, c'est sur le coming out difficile de... dans certaines régions, des garçons et des filles qui vivent un véritable cauchemar.
Oui, c'est vrai que vous faites bien de dire dans certaines régions. C'est vrai qu'à Paris,
ça a l'air plus facile
qu'ailleurs, même si ça reste très difficile. On l'a vu récemment parce que j'étais invitée justement par une association qui s'appelle Le Refuge.
Oui, oui.
Qui récupère heureusement
qu'elle existe, cette association.
Voilà. Et en fait, moi, j'avais été pareil. C'est un truc que j'ai vu qui m'a foudroyée un jour. J'ai vu un reportage, je sais même plus dans quoi, à la télé, d'un gamin, je me souviens, en Savoie, qui était géo au Club Med, donc il était homosexuel, et en fait, ses parents, depuis plusieurs années, essayaient de le soigner, parce qu'ils pensaient que c'était une maladie. Il l'avait même fait exorciser, et en fait, il s'est jeté d'un pont, quoi. Mmh. Et ça m'avait tellement bouleversée, je m'étais dit, c'est pas possible que ce soit si grave, quoi, que... Je savais que c'était dur d'annoncer son homosexualité à ses proches. Il y a des gens qui mettent des années, il y en a qui le font jamais. Mais je me suis dit que ça soit si violent, qu'il y ait des enfants qui soient jetés à la rue, même des adultes qui soient complètement reniés par leurs proches. Voilà, c'était...
Et vous n'avez jamais envie, en tant que parolière, vous n'avez jamais des envies de légèreté?
Si, alors justement, c'est drôle ce que vous dites, parce que bon, après tout, c'est... toutes ces choses un peu poignantes.
Concernantes et
lourdes. Et après, ce qu'on
lourdes,
a vécu en France, parce que moi, je réfléchis toujours avec mon pays, en fait. J'essaie de penser aux gens. Je sais pas, moi, j'ai un truc avec les gens dans les voitures, parce que pour moi, c'est là que j'ai eu les plus grands chocs de chansons dans ma vie. On est en voiture, on écoute une chanson et ça nous... Donc, je pense aux gens dans leur voiture ou dans leur cuisine ou qui vous écoutent, voilà, la radio, mm-hmm. tout ça. Ça rentre dans les foyers, ça rentre dans les familles. Je pense à tous ces gens. Et on a vécu les attentats, la France était complètement traumatisée, il y avait eu beaucoup de violence. Et après ça, donc Calogero réfléchissait à son album d'après, donc c'était l'album suivant. Et j'avais cette intuition que, et puis même en moi, le besoin de légèreté, quoi. Le besoin de revenir à des choses simples, et à du bien-être, à du bonheur, quoi, tout simple. Et donc on s'est dit, on va faire une chanson pour danser, quoi. Une chanson pour...
Pour souffler.
Voilà, pour souffler un truc tout simple, tout bête. Et on a fait « Je joue de la musique ». Voilà, c'est sûr que les paroles, c'est pas... Et pourtant, pour moi, il y a une profondeur aussi, justement, dans cette légèreté, c'est la vie, quoi.
Une nécessité.
Une nécessité, un besoin d'être heureux, de jouir de la vie aussi, quoi. Et voilà.
Mais il y a quand même de très bons moments quand on est parolier ou parolière.
Ah bah oui.
Qu'est-ce qu'on ressent quand un jour, on décroche son téléphone et qu'on entend « Allô Marie, c'est Julien Clerc ».
Alors ça...
On croit un gag au départ ou...
Non, parce que quand même, je savais que j'avais envoyé des textes. Ah. C'est pas lui qui m'a appelé pour me demander d'écrire pour lui, parce que généralement, dans ce métier, quand on se connaît pas en tant qu'artiste, il y a un agent, un manager, il y a une maison de disques qui fait le lien. Donc on m'avait demandé d'essayer d'écrire. Et,
c'est comme le président de la République, quelqu'un vous appelle avant en disant « Le président de la République
veut vous parler ». Non, après c'est lui qui m'a appelé.
Monsieur Clerc va vous appeler.
Non, Clerc, ça se passe comme ça.
Ça se passe comme ça, ouais.
C'est quelqu'un de très simple. Et donc après, quand il a décidé de choisir un texte, il m'a appelé lui-même. Et puis c'était justement hyper simple et hyper humain. Il m'a appelé, il m'a joué au piano avec son dictaphone. Mais moi, j'étais hyper heureuse, parce que c'est vrai que même si j'avais déjà eu la chance de travailler pour Calogero, de faire une chanson pour Céline Dion aussi, c'était quand même un truc incroyable, alors que je venais juste de commencer à écrire, ça a été assez fulgurant.
D'ailleurs, de avoir une pression, parce que Julien Clerc, quand même, il y a de très très grands paroliers qui ont
voilà,
travaillé
moi,
pour lui.
Voilà, moi c'était surtout ça.
C'est ça, oui, oui.
Par rapport à, c'était vraiment pour moi quelqu'un qui est là depuis très longtemps.
Il y a Dabadi qui a
Dabadi. Enfin voilà, là je touche à un endroit, je me dis si j'ai la chance d'être au milieu de ces gens-là, mais quel honneur. Et puis voilà, je me suis dit, surtout, je me dis, moi j'ai l'impression de servir à quelque chose, quoi. J'ai besoin de sens.
En tout cas, ça a fait naître ça, ça s'appelle « Sous mon arbre », Julien Clerc, les paroles de Marie Bastide. Vous êtes bien sur France Inter, dans Vous les femmes ensemble, jusqu'à 18h. Excellent dimanche à vous.
J'ai poussé une sorte de vieux marronnier au centre d'une cour carrée, majestueux. Dans ses racines, j'ai puisé la sève des grandes traversées, et mon pays, je l'ai trouvé. dans tes yeux. Sous mon arbre, je me balance. Je me repose loin du cours des choses. Sous mon arbre, je me balance. C'est la pause. J'ai fait grandir tout mon feuillage, j'y ai mis mes enfantillages, et nos enfants de tous les âges, merveilleux. J'ai fait durcir un peu l'écorce, pour nous donner le cœur, la force.
Julien Clerc, Sous mon arbre, les paroles sont de notre invité Marie Bastide.
Vous les femmes.
Oh, ange de douceur.
Daniel Morin.
Ouais, étends ouais. Sur ma souffrance.
Sur France Inter.
Le charme caressant de ta douce présence.
Marie Bastide qui écrit pour Julien Clerc, on vient de l'entendre, mais pas que, également pour Calogero, Louane, encore Florent Pagny, ou la mégastar Céline Dion, en préparation de son premier album, on va en parler tout de suite. Mais face à Marie, il y a également Claire Nouvian, militante pour la sauvegarde de la mer et des océans, présidente de l'association Bloom, cofondatrice de Place Publique, le mouvement citoyen écologiste et solidaire, et lauréate du prestigieux prix Goldman. Marie, ce premier album,
oui,
dont je viens de parler, alors.
Alors voilà, c'est une nouvelle étape. Bah écoutez, ça avance très bien. Et c'est une nouvelle étape donc qui part de mon travail de parolière, de mes mots. Mais en fait, à un moment, c'est venu comme un appel, comme quelque chose de plus grand que moi. Et je me suis vraiment prise au jeu. Et donc j'ai eu la chance du coup de demander des musiques à tous les compositeurs.
Alors vous travaillez pas seul. Il y a Calogero, Florent Marchais, Julien Clerc, Carla Bruni, Giacchino et Fid.
Voilà, donc ce sont des gens à qui j'ai donné mes textes et qui ont composé pour moi. Donc en fait, j'ai fait un peu ce que les compositeurs, par exemple Julien Clerc, il demande à des auteurs d'écrire pour lui. Moi, j'ai fait l'inverse. J'ai demandé à des compositeurs de composer pour moi avec mes textes comme Field, d'Ariane, de tout ça. Et puis un concept un peu spirituel dans cet album. Donc, je vous en dis pas plus. Voilà, je garde un peu mes petits secrets, mais... Voilà, je me suis prise au jeu et il y a quelque chose d'extraordinaire dans le chant. Et voilà, je travaille.
Et si les dates sont respectées, il devrait sortir quand cet album ?
J'aimerais bien qu'il sorte début 2020, par exemple. Ça serait idéal, ça serait magnifique.
Vous nous tenez au courant ?
Bien sûr.
Claire Nouvian, on a parlé justement de votre victoire pour ce qui était de la pêche en eau profonde, mais il y a aussi qui est plus récent, la pêche électrique. Ça a donné quoi alors avec Bruxelles ?
Eh bien, ça a donné qu'on a gagné de nouveau. C'était un peu miraculeux, je vous avoue, parce que obtenir l'interdiction de la pêche électrique en Europe, alors c'était déjà une espèce d'objectif impossible.
Il y avait vraiment des vents contraires.
Ah non, mais c'est plus que des vents contraires. Mais si vous saviez, en plus, on est tombé sur des brutes épaisses, violentes, vulgaires, insultantes, des menteurs. Enfin, c'était complètement dingue comme combat.
On se croirait dans l'univers de la radio, dites donc. Mais ça, c'est passé.
On a obtenu l'interdiction de la pêche électrique à partir de juin 2021. Alors évidemment, 2021, c'est pas aussi bien que ce qu'on aimerait tous avoir, nous les citoyens, c'est-à-dire tout de suite. Mais par contre, c'est la réalité de l'Union européenne. Il y a 28 États quand même, donc c'est un compromis. Mais bon, c'est mieux que rien.
Ouais,
et c'est carrément mieux que de continuer à électrocuter la vie marine. Donc ouais, on est très très contents et on dit de nouveau merci aux citoyens de nous avoir soutenus, mais alors à fond. Ils ont envoyé des milliers de mails aux négociateurs européens, ça a été assez magique en fait. Une fois de plus, cette alliance entre notre expertise et les citoyens, c'est vraiment génial.
Et c'est ce dont vous avez besoin, on en a parlé déjà, c'est-à-dire le combat, c'est difficile, c'est âpre, c'est beaucoup de privations, que ce soit avec son entourage ou son emploi du temps perso. Mais au final, quand on vous envoie des messages de soutien, bah, ça aide à faire passer ces pilules qui sont très amères de temps en temps.
Oui, et puis on le dit peut-être pas assez non plus, mais les soutiens financiers, quels qu'ils soient, ça nous permettrait aussi un petit peu plus de tenir dans la durée, parce qu'on a un petit problème de rythme et de l'impact sur notre santé. En fait, on a des petits sujets de fatigue chronique, donc pour tenir, il faudrait qu'on puisse recruter une ou deux personnes. Donc ouais, les aides financières, c'est aussi magique.
Alors, pour vous contacter, on va sur le site de l'association, j'imagine.
Oui, bien sûr.
D'accord.
Vous, l'association.
Tous les renseignements et tous les détails seront sur le site de l'émission Vous les femmes, bien entendu. Donc, deux victoires, la pêche en eau profonde et aussi la pêche électrique. C'est génial, c'est quand même des bonnes nouvelles.
Oui, une grande victoire. Et je pense que ça a le mérite de clarifier aussi une chose, je pense très importante. C'est que nous, notre travail, il est efficace parce qu'on s'assoit sur des données scientifiques, des données réelles de l'économie,
oui,
des données,
précises,
etc.
Des chiffres.
Des choses factuelles. Et c'est une victoire donc contre les fake news. C'est une victoire contre cette ère de la post-vérité où on nous dit que de toute façon, n'importe qui invente sa vision du monde et que voilà, on ne sait même plus où on est. C'est vrai qu'on est flottant. Eh bien voilà, c'est la preuve que les données, la réalité du monde, quand elle est décrite et qu'elle est rigoureuse comme on le fait, elle gagne avec l'appui de l'opinion publique. Donc en fait, c'est pas complètement foutu. Vous voyez, on peut gagner même à l'ère de la post-vérité.
Alors chaque semaine, mesdemoiselles, vous allez voir, Albert Algou nous dresse le portrait d'une femme quasi inconnue et qui pourtant était exceptionnelle. Cette semaine, Alberto, vous nous présentez Rachel Carson. On vous écoute.
Il était une fois Rachel Carson. Alors, Rachel Carson, née en 1907 en Pennsylvanie, elle passe son enfance dans la ferme familiale. Les champs, les étangs et la forêt sont ses terrains de jeu. Avide de lecture, Rachel montre vite des aptitudes littéraires. À l'âge de 10 ans, sa première nouvelle est publiée. Adolescente, elle dévore les livres de Melville, Conrad, Stevenson, avec un intérêt particulier pour les ouvrages qui évoquent les vastes océans. Elle étudie ensuite la biologie, la zoologie et la génétique, mais à la mort de son père, elle doit renoncer à préparer un doctorat pour chercher un poste d'enseignante à plein temps afin d'aider sa famille, comme elle le fera tout au long de sa vie. Ça, c'est assez admirable chez elle dans les pires circonstances. Elle collabore aussi à l'US Bureau of Fisheries, le bureau des pêches, en tant que biologiste et rédige des textes destinés à des émissions de radio éducatives intitulées Romance Under the Waters, c'est Poésie sous les eaux, c'est un joli titre. La série est un succès et dès lors, elle rédige un nombre considérable d'articles qui, en 1941, donneront un premier livre, Under the Sea. Je ne traduis pas. En 1952, malgré des responsabilités professionnelles de plus en plus grandes, elle publie The Sea Around Us, cette mer qui nous entoure. Un ouvrage sur l'histoire de la vie des océans. Un immense succès couronné par des prix littéraires. En 1953, elle se lie avec Dorothy Freeman, qui est une lectrice tout simplement enthousiaste de cette mer qui nous entoure, alors que leur relation a été platonique, homosexuelle et tolérée par le mari de Dorothy, peu importe. À noter que les deux amies brûlèrent par la suite une partie de leur correspondance, exactement comme le firent peu après Eleanor Roosevelt, l'épouse du président, et son amie Lorena Hickok, cela pour protéger leur amour dans une société encore très homophobe. Dès les années 40, Rachel Carson s'était inquiétée de l'utilisation intensive de pesticides synthétiques développés dans la foulée de recherches militaires. Et en 1953, un programme d'éradication des fourmis de feu par des épandages aériens de DDT qui était présenté comme la bombe anti-insectes, c'était supposé être un surnom optimiste, ça incite Carson à réagir. Malgré le cancer dont elle commence à souffrir, elle entreprend la rédaction de Silent Spring, Printemps silencieux. Outre les graves conséquences physiologiques et environnementales des pesticides utilisés abusivement, Carson constate la diminution inquiétante des insectes et des populations d'oiseaux. Je dirais déjà, d'où le titre du livre Printemps silencieux qui aujourd'hui fait vraiment écho. Elle accuse l'industrie chimique de procéder à une désinformation systématique. Visionnaire, elle préconise une utilisation responsable des pesticides utiles et surtout une approche biologique comme alternative aux pesticides chimiques. C'était il y a 57 ans. Avant la sortie du livre, les compagnies chimiques de l'industrie et les grands industriels déclenchèrent une forte campagne d'intimidation, de dénigrement et de calomnie. La crédibilité scientifique du Carson est attaquée, elle est accusée d'être communiste, d'être trop jolie, mais cette campagne échoue. L'opinion publique se range aux côtés de Carson et Silent Spring, dès sa parution, connaît un grand succès. Alors ce qu'il faut dire, c'est que ce livre influencera considérablement les décisions en matière de protection de l'environnement aux USA, avec notamment l'interdiction nationale du DDT et d'autres pesticides. Il sera aussi à l'origine de la création de l'Environmental Protection Agency, l'équivalent du ministère de l'environnement. Et à plus long terme, l'œuvre visionnaire de Carson contribuera dans le monde entier à une prise de conscience des enjeux écologiques. Désormais, personne ne pourra plus prétendre facilement que la pollution est un effet secondaire et nécessaire du progrès. Après cet ultime et magnifique combat qui continue, affaiblie par son cancer qui s'est généralisé, Rachel Carson meurt le 14 avril 1964 à l'âge de 56 ans, Total respect pour Rachel Carson et lisez Silent Spring. On trouve des éditions en français.
Rachel Carson était le portrait de cette semaine. Vous aviez entendu parler de cette dame?
Non, pas du tout.
Bien sûr.
Bien sûr. C'est vraiment incontournable dans le milieu de l'écologie. Elle est pionnière. C'est comme Aldo Leopold. Elle a participé à la conscience de l'écologie. Et donc, les mouvements écolos, après, sont nés de Rachel Carson, bien sûr.
Moi, j'adore le titre. Oui. Cette mère qui nous entoure, ça fait un très bon titre de chanson.
Il était une femme. Prochain portrait, dimanche prochain.
Vous, les femmes.
Oh, c'est trop horrible.
Sur France Inter.
Très rapidement, mesdames, dernière question. Claire Nouvian, même si c'est mal barré, est-ce qu'on peut faire quelque chose, nous, en tant que simples citoyens?
En fait, on peut tout faire. Il faut qu'on arrête d'attendre que les autres fassent à notre place. Donc, on fait tout. On met nos actes en concordance et en conformité avec les impératifs écologiques de la planète. On transforme notre modèle de réussite en diffusant à nos enfants et à nos proches nos valeurs. On doit gagner, en fait, on n'a pas le choix. Et on s'engage. On s'engage dans les combats, comme disait Marie, en fait, on choisit là où on a des affinités. Et puis on y va. Et on s'engage en politique, on s'engage dans une asso, on parle aux gens dans la rue. Vous savez combien ça coûte de mettre quelqu'un, en fait, de donner un logement à quelqu'un par an? Loger un SDF, ça coûte 9000 euros par an. Vous savez combien ça coûte à la société de le garder à la rue? 20 000. Vous vous rendez compte? En fait, on va contre le bon sens. Donc voilà, tous, on doit militer pour ça. Du bon sens, de la générosité, de la justice, du partage, du courage.
Qu'est-ce qu'on peut faire? La réponse est claire, tout. On peut tout faire.
Et soutenir les petites ONG.
Marie Bastide, oui. Pour qui rêveriez-vous d'écrire une chanson?
Je sais pas.
Allez, français
tout,
ou étranger.
Tout est bien. Moi, j'adorerais travailler avec des artistes comme Adèle ou des gens comme ça.
Ah bah voilà, le message est passé.
Voilà, mais bon, c'est en anglais.
Rien n'est impossible.
Sincèrement, moi, mon plus grand rêve aujourd'hui, c'est d'écrire pour moi et de toucher les gens.
Ah bah voilà, la personne pour qui vous rêvez d'écrire, c'est vous.
Voilà, c'est moi. Et un truc, vous avez dit tout à l'heure, Claire, que il fallait arrêter la compétition et partir dans un système de collaboration. J'ai lu ou j'ai vu, je sais plus, mais en tout cas que dans la nature, c'est pas la compétition qui règne, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire et qu'on a comme fausse croyance. La collaboration entre les êtres vivants, c'est quelque chose qui marche mieux que la compétition. Donc voilà, c'est faire les choses ensemble. Et voilà, moi c'est aussi pour ça que je veux chanter. C'est parce que c'est un vrai partage d'émotions et d'élévation de la conscience. Quoi. On peut avancer tous ensemble vers le...
L'élévation de la conscience, ça vous va très bien, ça lui va très bien aussi à lui. C'est Alberto qui va vous faire des cadeaux à présent.
Wow.
Alors, pour vous, Claire Nouvian, 40 éléphants, c'est la nouvelle aventure d'une série. 40 éléphants, Dorothy la poinçonneuse, et dans le long des années 20, le crime est une affaire de femme. C'est signé Virginie Augustin, qui est au dessin, et Kit Toussaint au scénario. C'est une très très belle BD. C'est collection Grand Angle. Et pour vous, Marie Bastide, alors c'est le livre d'une amie qui est déjà venue plusieurs fois ici nous voir, Fanny Agostini. C'est L'océan est notre avenir, manifeste dans la collection Autrement. Il n'est pas trop tard pour enrayer le saccage, le désastre écologique auquel nous sommes confrontés. C'est un livre tout à fait intéressant. Donc,
merci
de notre
beaucoup,
amie Fanny Agostini.
Merci de nous faire des cadeaux, c'est très gentil.
Vous avez reconnu la petite musique, c'est la fin de Vous les femmes. Aujourd'hui, nos invités étaient Claire Nouvian, militante pour la sauvegarde de la mer et des océans, présidente de l'association Bloom, cofondatrice de Place Publique, mouvement politique, citoyen, écologiste et solidaire. Marie Bastide était également parmi nous, parolière entre autres de Calogero, Louane, Julien Clerc, Florent Pagny, Céline Dion, mais surtout, elle s'occupe d'elle avec à venir, on l'espère en 2020, la sortie de son premier album. Merci Albert Algou à la réalisation de cette émission.
Marie-Annick
Rimbaud, attachée de production, Thomas Lehété. À la technique, Anne-Laure Cochet, programmation musicale, Thierry Dupin. Au revoir à tous, bon dimanche à l'écoute de France Inter, bien entendu. Moi, je vous donne rendez-vous dès demain matin sur cette même antenne, évidemment, à 6h57 pétante.